décembre. Bon réveil sur Radio Classique, il est 7h.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Virginie Fulpin pour le journal. Bonjour Virginie.
Bonjour David, bonjour à tous. Bachar al-Assad est tombé après 24 ans d'un régime d'oppression en Syrie, la diaspora syrienne en lieste dans toute l'Europe, mais avec une bonne dose d'incertitude. Nouvelle mobilisation des agriculteurs cette semaine alors que l'Union européenne a conclu un accord avec les pays du Mercosur au grand dam de la France. Et puis un week-end d'émotion et de ferveur à Notre-Dame de Paris pour la réouverture de la cathédrale.
Après le journal, l'éditorial de François Vidal, et puis les voix de l'économie, Charles Bonnet recevra Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF. La Syrie tourne une page de son histoire.
Un demi-siècle que la famille al-Assad était au pouvoir et Bachar al-Assad est tombé hier, 24 ans après avoir pris la succession de son père, 24 ans d'un régime d'oppression, la chute après l'offensive éclair des rebelles islamistes. Bachar al-Assad a fui la Syrie, il a trouvé refuge à Moscou. À Damas, la population fête la chute du dictateur, cris de joie, statues déboulonnées, des scènes de liesse qu'on retrouve un peu partout en Europe vu que 6 millions de Syriens ont fui leur pays. À Paris, la diaspora syrienne s'est retrouvée place de la République avec Nina Droff.
La Syrie ne fait qu'un scandale de la foule en agitant des drapeaux syriens dans les airs. Des dizaines de personnes en larmes se prennent dans les bras. Drapeaux noués autour des épaules, Saouzane et Shada n'arrivent pas à contenir leur joie.
Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la Syrie. Depuis 10 ans, je suis très heureuse. Je ne peux pas dire comment je sens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, pas du tout. Surtout en Syrie, les gens qui sont en prison, ça fait longtemps. Imagine, il y en a une personne, ça fait 40 ans.
Le régime qui était le plus fort, le plus criminel dans le monde, finalement, il est parti.
Quand on leur parle du futur, tous n'ont qu'un mot à la bouche, démocratie. Un rêve qui devient possible pour Abdul Hamid et sa famille restée en Syrie.
Et on a changé ce matin, ils sont contents, en espérant toujours d'instaurer une vraie démocratie en Syrie. C'est magnifique, il n'y aura pas de problème.
Mais Naed, activiste syrienne, le sait, il faudra tenir tête aux rebelles qui ont pris le pouvoir.
Nous avons beaucoup de défis face à nous. Il va falloir négocier avec eux pour devenir un pays de citoyenneté, sans exclusion et avec plus de droits pour les femmes.
Beaucoup d'entre eux veulent d'ailleurs rentrer en Syrie dès que possible pour reconstruire le pays.
Il y a la liesse donc, mais aussi l'incertitude. Qu'est-ce qui attend la Syrie après la victoire éclair des rebelles emmenés par des islamistes? La nouvelle tête d'affiche, c'est Abu Mohammad al-Jolani du groupe Hayat Tahrir al-Sham. Le HTS, une ancienne branche d'Al-Qaïda qui a rompu avec le groupe terroriste. Partout dans le monde, on se félicite de la chute du régime de Bachar al-Assad, mais on se pose des questions sur l'avenir et les intentions du nouveau pouvoir. Déjà, Lucie Dupressoir, comment en 10 jours à peine les rebelles ont-ils fait pour renverser le pouvoir?
C'est une opération que le HTS prépare en fait depuis 5 ans en construisant un arsenal militaire. Le groupe a notamment fabriqué ses drones explosifs, il s'est doté d'un commandement et s'est appuyé sur une force d'environ 10 000 hommes déterminés à vaincre, explique Wassim Nasr, journaliste spécialiste des mouvements djihadistes.
Ceux qui se battent, ce sont en majorité des déplacés syriens. Donc ceux qui sont partis reviennent avec les armes. Et leurs enfants, qui étaient partis à l'âge de, 10, 11, 12 ans, sont aujourd'hui en âge de porter les armes et ils se battent pour récupérer leur village et leur ville. Parce qu'il faut se rappeler quand même que ce sont des villages et des villes fantômes depuis des années. Et donc, ça explique aussi la facilité avec laquelle ils ont avancé. C'est assez plus grand quand même.
La débandade de l'armée syrienne, déjà affaiblie depuis plusieurs années, a aussi facilité l'offensive du HTS. Plusieurs experts, par ailleurs, s'accordent à dire que les rebelles auraient pu nouer un accord avec le désormais ex-premier ministre syrien, Mohamed al-Jalali. Il n'y a qu'à voir son arrestation sans signe apparent de violence, ce qui tranche avec les habitudes islamistes. Il s'est aussi dit prêt à coopérer avec tout nouveau leadership. Dans son opération, le HTS a également pu compter sur l'appui de la Turquie et le retrait des alliés historiques de Bachar el-Assad, la Russie, l'Iran et le Hezbollah, tous concentrés sur d'autres fronts.
Et la Russie qui accorde l'asile politique à Bachar el-Assad, mais il devra rendre des comptes. C'est ce que dit Joe Biden. Le président américain parle d'une opportunité historique pour le peuple syrien. Emmanuel Macron, lui, se félicite de la chute de Bachar al-Assad et dit que l'état de barbarie est enfin tombé en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui au sujet de la Syrie.
Les agriculteurs se mobilisent à nouveau cette semaine en France.
Le moment est crucial pour eux. La France n'a pas de budget ni de gouvernement pour l'instant. Emmanuel Macron reprend ses consultations aujourd'hui à l'Elysée. Et puis, l'Union européenne et les pays du Mercosur ont conclu un accord de libre-échange en fin de semaine dernière. Il doit encore être ratifié par les pays membres et la France s'y oppose. Beaucoup de raisons de faire pression pour Édouard Brunet, des jeunes agriculteurs des Hauts-de-France.
On a été lâchés ou trahis par l'ensemble de nos députés qui sont venus nous voir sur les barrages. La plupart de ce qui aurait pu subvenir aux différents soucis du monde agricole était dans le budget, si je puis dire, avec quelques avancées qui étaient pour le monde agricole de l'ordre de 400 millions d'euros, une partie par de l'allègement de charges, une partie par des exonérations. Voilà, c'est quelque chose que le monde agricole attendait depuis les mobilisations du début d'année. Et sur le Mercosur, il nous faut chercher des alliés dans les pays européens, remettre une pression sur le président Macron. Il faut, à un moment donné, que nos politiques reviennent un petit peu à la raison, qu'ils pensent un petit peu au peuple.
Édouard Brunet répondait à Éric Kioch. Renaissance à un nouveau secrétaire général. Gabriel Attal prend les rênes du parti présidentiel. L'ancien premier ministre a été élu hier. Un procès emblématique des violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma. Christophe Ruggia est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris. Le réalisateur est accusé d'avoir violé Adèle Haenel sur un tournage quand elle était mineure. Il nie les faits. Marine Longuet est membre du collectif 50-50 qui milite pour l'égalité homme-femme dans le cinéma. Elle est aussi assistante de réalisation. Elle encadre des enfants. Et elle constate que le témoignage d'Adèle Haenel a déjà fait changer beaucoup de choses.
Plusieurs professionnels, notamment il y a l'ARDA, l'association des directeurs et directrices de casting, ont mis en place une charte de bonnes pratiques dans le casting des enfants et même toute une réflexion sur l'accompagnement des personnes mineures au moment du tournage. Et aussi, pour accéder à de l'argent public dans le cinéma en tant que producteur et que productrice, il faut obligatoirement passer par une formation qui est donnée par le CNC, une formation qui rappelle qu'en tant qu'employeur, s'ils n'ont pas mis en place une campagne de prévention contre les violences sexistes et sexuelles, ils peuvent être tenus responsables s'il y a harcèlement ou agression sexuelle sur le lieu du travail. Ça, c'est implacable. Quand l'accès à l'argent est conditionné à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ça a lieu, forcément.
Des propos recueillis par Marine Salaville. Entre émotion et fierté, les deux premières messes en public à Notre-Dame de Paris depuis l'incendie ont eu lieu hier. 2500 fidèles y ont assisté. Parmi eux, Enguerrand de Mézy, il est scout et il sait qu'il vient de vivre un week-end historique.
Très peu dormi. Mais très heureux de ne pas avoir beaucoup dormi. C'est, je pense, un privilège pour nous d'avoir pu être dans l'organisation de cet grand événement qui marque un peu notre siècle. Grand sentiment de fierté. C'est quand même un monument qui représente la France. Quand on pense à Paris, on pense à Notre-Dame de Paris. Et on sent que il y a vraiment une nouvelle identité, un certain air de modernité. Déjà des souvenirs très marquants pour tout le monde.
Enguerrand de Mézy au micro de Victoire Fort.
Scout toujours prêt, comme Virginie Fulpin, qu'on surnommera Marmotte Informée. Tiens, si vous étiez scout, on vous appellerait Marmotte Informée, ce serait pas mal.
D'accord, bah j'ai gagné un surnom ce matin, voilà. C'est parfait.
Vous revenez à 8h à suivre l'éditorial avec les échos. François Vidal vous explique comment la loi spéciale annoncée par le président de la République jeudi dernier vient pallier l'absence de budget voté pour 2025. Radio Classique 7h08.
Retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon du lundi au vendredi à 17h sur Radio Classique. Cette émission est disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Avec Optique 2000, découvrez les verres progressifs Varilux.
Pour voir de près.
Comme de loin.
À l'extérieur.
Comme à l'intérieur.
Confortablement sur tous les écrans.
En lisant. Ou en conduisant.
Pour bénéficier d'un conseil personnalisé et découvrir les verres Essilor les mieux adaptés à votre vue, rendez-vous chez votre opticien Optique 2000. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Prenez en main vos investissements avec Bourse Direct. En ce moment, bénéficiez de 200 euros de courtage offert sur les marchés français ou américains. Bourse Direct vous laisse le choix. Et en cas de transfert de votre compte, Bourse Direct s'occupe de tout et vous rembourse aussi vos frais de transfert. Rendez-vous sur boursedirect.fr pour bénéficier de vos 200 euros de courtage offert et bien plus encore. Avec Bourse Direct, vivez la bourse autrement. Offre valable jusqu'au 18 novembre. Détails sur boursedirect.fr. Risque de perte en capital. Communication promotionnelle.
Alors, c'est l'histoire d'un Belge qui rencontre un Suédois, qui rencontre un Croate, qui rencontre un Danois, qui rencontre un Français, qui rencontre un...
Vivez la sixième journée de l'UEFA Champions League. Avec demain à 21h, Brest PSV Eindhoven sur Canal Plus Sport et Salzbourg Paris SG sur Canal Plus Foot. Et mercredi à 18h45, Lille Sturm Graz sur Canal Plus Foot, suivi d'Arsenal Monaco à 21h sur Canal Plus. Retrouvez l'intégralité des rencontres de l'UEFA Champions League sur Canal Plus Live. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et François Vidal pour l'éditorial de l'économie.
Avec France Valais, investissez dans la forêt en France et en Europe.
7h11 pile poil, François Vidal, bonjour.
Bonjour David.
On n'en sait plus sur la loi spéciale que les députés doivent voter dans les prochains jours et qui va se substituer au projet de budget 2025.
Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle va faire beaucoup de mécontents. Alors bien sûr, grâce au vote de ce texte, la France va éviter le shutdown qui menaçait de bloquer l'État après la censure du gouvernement Barnier en pleine session budgétaire, ce qui est déjà beaucoup. Mais ce sera à peu près tout, a expliqué hier sur LCI Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes. Ce qui signifie entre autres que 17 millions de contribuables paieront davantage d'impôts sur le revenu, que les aides prévues pour la Nouvelle-Calédonie, un territoire en grande souffrance, passeront à la trappe, et aussi que les agriculteurs ne bénéficieront pas des mesures d'urgence qui devaient les aider à surmonter la crise actuelle. De quoi démentir l'idée très répandue ces derniers temps que la censure ne coûterait rien aux Français et attiser le mécontentement dans le pays.
Et puis le texte aura une durée de vie limitée a priori, puisque le prochain gouvernement devrait présenter un nouveau projet de loi de finances pour 2025.
Alors théoriquement oui, mais c'est loin d'être garanti, car pour cela il faudra franchir trois obstacles. D'abord évidemment constituer une nouvelle équipe gouvernementale. Ensuite que le nouveau Premier ministre soit en mesure de présenter un texte budgétaire qui tienne la route, ce qui sera tout sauf simple puisque la situation des finances publiques ne cesse de se dégrader. Selon Pierre Moscovici toujours, le déficit 2025 est actuellement sur une pente de 6%, alors même que de l'avis général, l'activité économique est en train de marquer le pas. En clair, pour pouvoir desserrer les cordons de la bourse, le gouvernement devra commencer par remplir les caisses en prenant des mesures forcément impopulaires. Et il faudra enfin ne pas se faire censurer. Autant dire, David, que les chances de voir cette loi spéciale s'inscrire dans la durée sont tout sauf nulles.
François Vidal pour l'éditorial avec Les Échos. Les Échos qui titrent ce matin « La ruée vers l'ouest des industries européennes ». David Barou nous en parlera à 8h10. Merci François. Demain, à suivre les voies de l'économie, Charles Bonnet reçoit aujourd'hui la vice-présidente du MEDEF, Dominique Carlac. Radio Classique, il est 7h13, tout de suite l'essentiel de l'économie. Et à la une ce matin, Donald Trump maintient son objectif d'une politique protectionniste. « Je suis un fervent partisan des droits de douane », dit le futur président américain dans une interview à NBC. Il estime qu'elle ne coûtera rien aux Américains, même s'il n'exclut pas une hausse des prix. La scission de Vivendi soumise au vote des actionnaires aujourd'hui. Le projet prévoit de scinder le groupe en quatre entités. Canal+ sera coté à Londres, Havas à Amsterdam, Vivendi et Louis Hachette à Paris. Les actionnaires auront donc quatre actions au lieu d'une seule. Et puis nous sommes entrés en légère récession, c'est ce que dit Patrick Martin, le président du MEDEF, dans le journal du dimanche. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, estime quant à lui que la France n'a pas basculé dans le chaos, mais alerte sur une possible perte de crédibilité progressive. Radio Classique, 7h14, à suivre les voies de l'économie.
Dis donc, tout le monde parle de Bitcoin, de crypto, moi j'y comprends rien.
Fais comme moi, passe par CoinHouse. C'est sérieux, des experts t'accompagnent et en plus c'est français.
Ah, c'est rassurant ça.
Bien sûr, avec CoinHouse, tout est clair, accessible. C'est l'idéal pour acheter des cryptos.
Redis-moi comment ça s'appelle ?
CoinHouse, comme dans Bitcoin.
CoinHouse SAS, 14 avenue de l'Opéra, Paris 1er. La crypto-monnaie présente un risque de perte en capital lié à la volatilité des cours et à la cybersécurité. Plus d'infos sur CoinHouse.com.
De nombreux services hospitaliers sont fermés ou surchargés. Et les soignants sont au pied du mur.
Hospitaliser des malades ici, c'est l'idée de qui ? C'est grave pour les malades ! C'est dangereux pour vous !
Un hôpital, c'est fait pour hospitaliser, pas pour trier et renvoyer à le domicile.
Personne n'en voulait. On n'allait pas les laisser dans la rue.
Non, on n'avait pas le choix, vraiment.
Soigner, c'est résister. Hippocrate, la création originale Canal+, revient pour une troisième saison. À découvrir dès maintenant via MyCanal.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Il est 7h15, votre invité Charles a été vice-présidente du MEDEF, elle est membre de son conseil exécutif.
Bonjour Dominique Carlac.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique, le gouvernement a été renversé, le budget est rejeté. Comment regardez-vous cette situation, avec dépit ou avec colère ?
Moi avec dépit, mais les membres du conseil exécutif et en tout cas les adhérents du MEDEF, beaucoup sont en colère. Pourquoi ? Parce que la censure, c'est déplorable pour l'économie. C'est déplorable pour l'économie parce que maintenant la question, ça va être de savoir comment on sort de cette situation inextricable où ce sont les intérêts partisans qui ont pris le dessus et avec des conséquences politiques certes très lourdes, mais surtout des conséquences économiques extrêmement lourdes avec, de notre point de vue, un besoin impérieux de stabilité et de vision pour notre pays. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, si on veut qu'on rétablisse les finances publiques, si on veut qu'on redonne une trajectoire crédible pour les entreprises, ça n'est pas juste une volonté conservatrice ou libérale, c'est simplement eu égard à la situation économique de notre pays, la conjoncture économique de notre pays. Et je vais vous donner quelques exemples parce que j'ai été très étonné qu'on puisse douter de ce que les chefs d'entreprise disaient sur la situation économique, sur ce qu'ils vivent dans leurs entreprises. Sur la croissance, sur le marché de l'emploi, sur la trésorerie, ça va pas très bien. La croissance, on pense qu'elle va être autour de 0,5%. Les défaillances d'entreprises, on n'a pas connu un niveau de défaillance d'entreprise comme celle qu'on connaît en ce moment depuis la crise financière. Et c'est ancien, la crise financière. Bien aujourd'hui, ça touche les ETI, ça touche les PME. Et qu'est-ce qu'on a enregistré ? On a enregistré 65 000 défaillances d'entreprises. C'est les mêmes niveaux records que quand il y a eu la crise financière. Ça, c'est un élément clé. Deuxième élément clé qui va faire comprendre ce qui se passe dans nos entreprises. Et nous sommes en responsabilité, que ce soit les salariés ou les chefs d'entreprise là-dessus. Il y a eu 53 000 destructions d'emplois au cours des deux derniers trimestres. Suite à cette dissolution, on a eu 53 000 destructions d'emplois. Ça faisait longtemps qu'on détruisait plus d'emplois. Mmh. Et c'est pour ça que je vous disais en aparté, la question du pouvoir d'achat risque d'être reléguée à la question de l'emploi, tout simplement. Et puis, dernier élément, notre éditorialiste ce matin nous parlait d'un papier dans les Échos ce matin qui parle de la ruée vers l'ouest des investissements.
C'est l'une des Échos ce matin.
Ouais. Tout à fait. On est à moins 10% d'investissement en France, là où les États-Unis, entre 2016 et 2024, ont doublé les investissements qui arrivent chez eux. En 2016, ils recevaient 14% des investissements européens. Aujourd'hui, c'est 28%.
Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, la partie politique, le prochain gouvernement va devoir présenter une loi spéciale pour éviter donc la paralysie du gouvernement. Ce qu'il va se passer, c'est que les règles de cette année vont être prolongées. Finalement, pour les entreprises, ce n'est pas forcément une très mauvaise nouvelle, puisque les hausses d'impôts qui étaient prévues, notamment pour les grands groupes, n'auront pas lieu.
C'est pour les grands groupes n'auront pas lieu, mais en revanche, ce budget et la censure qui va avec, le budget ancien et la censure qui va avec, était finalement le fruit d'un compromis. C'est-à-dire, un peu comme en 4e République, chacun avait discuté et il y avait un compromis. On sait pas tellement les compromis qu'on avait obtenus pour le bâtiment, par exemple. On sait pas trop ce que ça va donner, alors que le bâtiment, l'immobilier d'une manière générale, est en crise. Donc, cette incertitude nous pose quand même problème.
Vous avez parlé tout à l'heure de ce risque de légère récession, je reprends les mots hier de Patrick Martin.
Fait.
Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse donc du PIB dans les prochains mois ?
Ben, vous savez, le problème numéro un des entreprises aujourd'hui, ça n'est plus les ressources humaines et trouver des talents. Pendant 3 ans, sur vos antennes, on a dit, nous, les chefs d'entreprise, on a du mal à recruter, c'est difficile de fidéliser, etc. Ça, c'était notre leitmotiv pendant 3 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous disent les chefs d'entreprise ? J'ai du mal à trouver des clients, j'ai du mal à prendre des commandes. Donc ça, c'est un vrai problème économique. Ça veut dire que l'activité se ralentit.
Est-ce qu'on est face à un risque de crise financière ? Michel Barnier l'a dit avant la censure, Emmanuel Macron dit l'inverse, et vous ?
Je suis pas sûr que ça soit pour l'instant un risque de crise financière qui soit le plus important. Certes, la dette coûte vraiment très très cher à la France.
Oui.
Je regardais, si on poursuit le taux d'endettement que l'on a maintenant, déjà le coût de l'année prochaine, le coût pour se payer l'endettement que l'on a, c'est 300 milliards d'euros supplémentaires en 2025. Donc ça coûte cher. Mais la France reste néanmoins quand même un pays attractif. C'est un pays dont on a besoin. Mmh. Et c'est un pays dont on a besoin de la santé.
Puisqu'il y a le déficit, vous allez donc devoir vous résigner à des hausses d'impôts? C'est ce que vous dites aussi à vos adhérents?
Non, on n'est pas résigné. Alors là, pour le coup, s'il y a quelque chose qu'on demande en responsabilité au gouvernement, c'est deux choses. Dans un pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde, il ne s'agit pas d'augmenter les impôts. Parce que je ne vois pas comment une entreprise qui cherche des clients, qui cherche des commandes, si elle a une augmentation d'impôts, je ne vois pas comment elle peut s'en sortir, si ce n'est de licencier massivement.
Vous nous avez parlé tout à l'heure des 65 000 dépôts de bilan. Quels sont les secteurs aujourd'hui qui sont les plus en danger? Il y a l'automobile?
Alors, c'est contrasté. Il y a les secteurs qui vont un peu mieux, qui sont un peu sortis de la difficulté, c'est l'aéronautique et l'agroalimentaire. En revanche, on a vraiment une crise dans l'automobile qui n'arrive pas à vendre ses véhicules électriques. Et puis, on a aussi une crise dans le bâtiment qui est sur toute la filière. Je dirais des promoteurs, en passant par les agences immobilières, en passant par la construction. Là, c'est vraiment une catastrophe.
Et les entreprises étrangères, alors, puisque Patrick Martin nous dit que certaines d'entre elles, enfin la moitié d'entre elles, ont soit reporté, soit annulé des projets d'investissement, est-ce que vous avez des exemples?
Les exemples, c'est... Moi, vous le savez, je suis membre du conseil d'administration de la Chambre franco-allemande d'industrie et de commerce. Ces industries qui ont des belles implantations en France, elles réfléchissent. Elles réfléchissent en disant l'incertitude, c'est jamais très bon pour les affaires.
Mais elles attendent quoi? Elles attendent un prochain gouvernement?
Elles attendent la stabilité. Elles attendent une perspective. C'est vrai que pendant 7 ans, nous avons été habitués, presque 9 ans même, à une politique de l'offre favorable aux investissements. Et c'est vrai que les investissements industriels ont grimpé. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les regards se tournent vers l'Ouest, mais vers le Grand Ouest, vers le Far West, vers les États-Unis, où grâce à l'IRA, qui va probablement être renouvelé et confirmé par le gouvernement Trump, les investisseurs de tout poil, ceux qui investissaient en France, ils regardent plus large aujourd'hui.
Donc dépôt de bilan, moins d'investissement, des reports d'embauche, ça veut dire donc que le chômage va augmenter, c'est donc une certitude selon vous?
Alors, c'est pas forcément une certitude si on nous envoie des signaux que on a un gouvernement raisonnable qui ne part pas sur une logique d'hausse d'impôts et d'hausse de charges pesant sur les entreprises. Faut juste se dire une chose, c'est que politiquement, ceux qui ont beaucoup contribué à la création de richesses aujourd'hui, c'est-à-dire les Français, les dirigeants d'entreprises, les salariés, ne sont pas forcément à l'aise avec le discours populiste de ceux qui contribuent moins à cette création de richesses en France.
Et en ce moment, dans les entreprises, il y a les négociations annuelles obligatoires. Quelle est la tendance qui remonte des adhérents? Pas de hausse de salaire?
Alors, je crois qu'il y a, paradoxalement, il y a une prise de conscience de toutes les parties prenantes dans l'entreprise, c'est-à-dire que ça n'est pas un hasard si les syndicats de salariés et les organisations patronales ont réussi à aboutir sur les accords emploi senior, sur les accords assurance chômage. C'est que même avec des points de vue divergents, on arrive à des compromis. Et je pense que l'esprit dans les entreprises, c'est que il y a une crise politique qui ne doit pas durer et que du coup, on va trouver des compromis dans les entreprises en responsabilité.
Des compromis entre patrons et syndicats pour éviter de passer par les politiques. C'est ça donc la conclusion.
C'est exactement le message que j'étais en train de vous passer.
Merci Dominique Carlac, membre du conseil exécutif du MEDEF. Merci à vous d'être venu ce matin dans les Voix de l'économie.
Merci à tous les deux. Charles, à demain 6h pour le tour de l'actualité économique. À suivre les coulisses de la politique, quel est l'avenir de Gabriel Attal? Tout de suite, le futur, le présent, le passé composé, c'est Karine Dijoux et sa chronique Par tous les temps, Radio Classique 7h23. Bonjour Karine Dijoux.
Bonjour David.
Aujourd'hui, on va corriger un peu les journalistes parce que parfois, eux aussi, parce qu'ils parlent beaucoup, ils font des erreurs.
Oui, et ce qui est embêtant, c'est quand l'erreur se répète et quand elle semble être la preuve d'une mauvaise connaissance du sujet. Par exemple, au moment des élections américaines, il a notamment été question de dépouillage. Je ne veux pas donner l'impression de chercher des poux dans la tête des journalistes, mais rappelons qu'il vaut mieux ne pas confondre épouillage, donc le fait de débarrasser quelqu'un de ses poux, et dépouillement. Mais d'ailleurs, le nom masculin dépouillage existe bel et bien, et il consiste à retirer la peau d'une bête tuée. Le dépouillement des votes est moins cruel, même si le résultat peut l'être. Le dépouillement désigne plusieurs actions successives, le fait de décompter les émargements, puis les enveloppes, et enfin de les ouvrir pour avoir le nombre de votes avant de proclamer les résultats.
Alors on a aussi entendu également au moment des élections américaines, les partisans, la mine défaitiste, attendent la proclamation des résultats. C'est pas la mine défaitiste.
Et non. Pourtant le terme défaitiste existe, c'est à la fois un adjectif et un nom, mais il signifie relatif au défaitisme. Ou alors il désigne une personne qui croit systématiquement à la défaite. Dans le cas de la phrase qui a été mentionnée, l'expression attendue est-elle la mine défaite ou alors le visage défait, ce qui signifie abattu, décomposé. Et bien sûr, si vous relevez d'autres erreurs récurrentes, vous pouvez m'en suggérer.
Ah bah oui, vous faites ça sur radioclassique.fr ou sur le compte Instagram de Karine Dijoux. Les parenthèses...
élémentaires.
Élémentaires, ma chère Karine, à demain.
À demain.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Oui, c'est Monsieur Martin. Alors vous me dites que votre comptable est en vacances, ensuite que vous êtes en train de changer de banque et maintenant vous avez perdu ma facture. Est-ce que vous payez ma tête par hasard ?
Sans aucun doute, Monsieur Martin, sans aucun doute. J'en ai bien peur.
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2023, le cabinet Arc a réalisé 900 millions d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
Parce que le monde change, Invivo, Union Nationale des Coopératives Agricoles, accélère la transition du secteur agroalimentaire en déployant des solutions et des produits innovants et responsables. Pour en savoir plus, retrouvez Fabrice Lundy dans l'Intelligence Alimentaire en question, chaque jeudi à 7h30 sur Radio Classique.
Renew. Avec Renew, véhicule d'occasion toute marque des réseaux Renault et Dacia, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Jusqu'au 31 décembre, profitez de la borne de recharge offerte sur toute notre gamme de véhicules d'occasion 100% électriques. Renew, véhicule d'occasion reconditionné et certifié. Borne d'une valeur de 600 euros hors taxe pour forfait borne plus installation. Offre à particuliers et professionnels du 1er au 31 décembre, voire conditions sur fr.renew.auto.
Renew.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Depuis 180 ans, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, accompagne ses clients sociétaires dans la gestion de leur patrimoine. Assurance vie, épargne retraite, placement financier, mais également une solution d'épargne originale, la Tontine. Le Conservateur propose un accompagnement personnalisé aux épargnants et dirigeants d'entreprises partout en France. Nous donnons de la valeur au temps.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et à 7h27 avec Marcelo Vesfred pour les coulisses de la politique. Marcelo Vesfred du Parisien aujourd'hui en France. Le journal qui titre ce matin Bachar al-Assad, le monde entre liesse et prudence. Mais pour l'heure, on parle politique. Bonjour Marcelo.
Bonjour David.
Hier, Gabriel Attal a officiellement pris les rênes du parti Renaissance. Pour l'ex-premier ministre, c'est une période nouvelle qui s'ouvre et donc il compte bien profiter pour changer de statut.
Oui, la chute de Michel Barnier, Gabriel Attal ne l'a pas souhaité. Il a même tout fait pour l'éviter, mais paradoxalement, cet événement lui redonne de l'oxygène, car entre Michel Barnier et Gabriel Attal, c'était tendu depuis la première minute. Souvenez-vous de la passation de pouvoir, les pics de Barnier. Le septuagénaire n'a pas arrêté depuis d'égratigner le bilan économique. C'était devenu inconfortable pour Gabriel Attal, qui s'était du coup replié dans un registre de chef de meute, dans le rapport de force permanent. Parfois un brin roquet, disait-on au gouvernement. Désormais, Gabriel Attal promet de prendre de la hauteur, de ne plus être dans les arrangements de couloirs. Voilà ce que dit textuellement son entourage.
Alors que va-t-il faire du parti Renaissance ?
Il s'en est expliqué dimanche devant 300 militants qui étaient réunis à Paris pour la convention de Renaissance. Il compte faire du parti le parti du travail, de l'autorité, de la laïcité. Il a annoncé qu'en janvier, il organisera des états généraux. Ça ressemble fort, David, à un droit d'inventaire des années Macron. Le thème qui sera mis en débat sera « Où est partie la promesse de 2016 ?» Des militants déçus seront invités à expliquer pourquoi ils ont pris le large. Et les débats, dit Attal, seront tous publiés. Ça risque d'être sanglant. L'ancien Premier ministre joue la rupture et se projette. Un conseiller gouvernemental m'a dit hier soir, Gabriel Attal a désormais la main sur les investitures et le pognon du parti, tout en restant patron du groupe Renaissance à l'Assemblée. Il incarne donc la suite, qu'on le veuille ou non, fin de citation. Son premier chantier sera de peser sur le casting du gouvernement. Il prône un pacte de non-censure qui irait du Parti Socialiste au LR. Et pour Matignon, selon pas mal de gens, il milite pour la ministre LR Catherine Vautrin pour Matignon, ce que l'équipe Attal se refuse pour l'instant à confirmer. L'autre chantier, c'est les législatives, en cas de nouvelle dissolution à l'été. Et aussi, il faudra préparer les municipales de 2026. Et à titre personnel, Gabriel Attal devra dire s'il brigue ou non la mairie de Paris. Bref, l'année qui s'ouvre sera chargée pour cet homme pressé qui fêtera en mars ses 36 bougies.
Les coulisses de la politique par Marcelo Westfred qu'on retrouve demain vers 7h25. À demain, Marcelo, tout de suite le temps.
Avec la Banque Transatlantique, donnez de nouveaux horizons à vos projets philanthropiques.
Bonjour Pierre Pillier. C'est gris et pluvieux dans une grande partie du pays aujourd'hui.
Des éclaircies près de la Méditerranée, il y en aura aussi par moments dans le quart nord-ouest. Ailleurs, c'est un temps maussade. Les températures maximales, 6 degrés à Lyon, 7 à Paris, 9 à Bordeaux, 12 à Marseille.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Pierre Pillet pour le journal de 7h30.
Et maintenant, quel avenir pour la Syrie? Le régime Assad tombé en à peine 10 jours, les rebelles à Damas, portrait de leur chef dans ce journal. La suite des consultations afin de trouver un nom pour Matignon. Emmanuel Macron reçoit écologistes et communistes aujourd'hui. La France peut-elle s'opposer à l'accord entre l'Union Européenne et le Mercosur? Décryptage de la minorité de blocage.
Après le journal L'Écho du Monde, puis le journal imprévisible consacré à ses dirigeants chassés du pouvoir et qui partent en exil. Au terme d'une offensive éclair, les rebelles prennent le contrôle de la Syrie.
Il aura fallu une dizaine de jours seulement à la coalition menée par le groupe islamiste HTS pour prendre les principales villes et faire route jusqu'à Damas, la capitale, faisant chuter ce week-end le régime syrien. La fin de plus de 50 ans de dictature avec des scènes de liesse. Une offensive menée par Abou Mohammad al-Joulani. Il promet ouverture et modération malgré son passé terroriste, Julie Drouin.
Abou Mohammed al-Joulani a passé sa vie une arme à la main. Durant sa vingtaine, ce professeur d'arabe classique rejoint les rangs d'Al-Qaïda en Irak, puis du groupe État islamique, avant de revenir à Al-Qaïda. Il fonde en 2011 son propre groupe terroriste, le Front al-Nosra, qui promeut l'instauration de la charia en Syrie. En 2016, le mouvement rompt avec Al-Qaïda et devient HTS. Al-Joulani va alors tenter de lisser son image auprès de la communauté internationale. Le costume rend place la tenue traditionnelle, les propos deviennent modérés. Il n'a qu'un but, dit-il, renverser le dictateur Bachar el-Assad.
Et maintenant que c'est fait, Julie, le combattant de 42 ans promet une transition politique ordonnée.
Depuis le début de son offensive à travers le pays, des messages sont envoyés à destination des minorités chrétiennes, druzes et alaouites pour les rassurer. De chef de guerre, il veut aujourd'hui se muer en homme politique et apparaître comme l'alternative à Bachar el-Assad. Reste qu'al-Joulani représente toujours une tradition fondamentaliste religieuse très dure, en opposition avec l'image, bien que contestée, d'une Syrie ouverte à la laïcité.
Et cette prise de pouvoir a été permise indirectement par Israël, qui a affaibli le Hezbollah et tué le chef du Hamas. Hamas et Hezbollah soutien du régime syrien. Bachar el-Assad, le président déchu au pouvoir depuis 24 ans, est parti avec sa famille dans un pays ami, la Russie. C'est ce qu'indiquent des agences de presse russes. Pour Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, Vladimir Poutine cherche à rassurer les alliés de Moscou.
Ça montre malgré tout les liens très forts, liens d'ailleurs criminels entre Bachar el-Assad et Poutine. Et ça montre aussi que Bachar el-Assad n'avait pas beaucoup de choix. Là, c'est vrai que Poutine n'a pas montré beaucoup d'empressement, tout simplement parce qu'il ne le pouvait pas, parce que son armée est d'abord consacrée évidemment à sa guerre contre l'Ukraine. Poutine a voulu montrer que malgré tout, il était une sorte de refuge pour les anciens dictateurs déchus. C'était un mauvais signal adressé aux autres dictateurs de la planète qu'il soutient, de ne pas montrer un empressement pour venir à la rescousse de son ancien allié.
Et c'est à la demande de la Russie que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui pour parler de la situation en Syrie. La chute de Bachar el-Assad saluée par la France et les États-Unis, c'est aussi un moment de risque et d'incertitude. Tempère le président américain Joe Biden, Washington souhaite une nouvelle constitution, un nouveau gouvernement pour la Syrie, pays dans lequel la guerre a fait près de 500 000 morts et plus de 6,5 millions de déplacés. 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. La première a dépassé la barre d'1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. C'est ce qu'annonce ce matin l'Observatoire européen Copernicus. En Corée du Sud, l'opposition accuse le parti au pouvoir de commettre un deuxième coup d'État. Le parti a refusé de destituer le président Yoon Suk-yeol. Une motion a été soumise au vote des députés samedi. Elle a échoué. La semaine dernière, le président a proclamé la loi martiale avant de renoncer quelques heures plus tard sous pression du Parlement et de la rue.
Radio Classique, 7h34. Il n'est pas officiellement candidat au poste de Premier ministre, mais François Bayrou se dit prêt à aider.
On ne peut pas continuer comme ça, déclare le président du Modem, parti membre du camp présidentiel. Après la censure du gouvernement Barnier mercredi dernier, les consultations continuent. Ce matin, Emmanuel Macron reçoit les responsables des écologistes et du Parti communiste à l'Élysée. La France insoumise a refusé l'invitation. À 11h, la chef des députés écologistes, Cyrielle Chatelain, va venir avec une liste de doléances.
On va lui redire qu'il l'a perdu, que le président accepte enfin de rentrer en cohabitation. Il y a une feuille de route à avoir, la question de l'augmentation des salaires. On a aujourd'hui des annonces de licenciement partout en France. Le prochain gouvernement doit apporter des solutions. Et enfin, la question écologique qui a complètement disparu. Et donc, on doit avoir un gouvernement qui s'engage sur un plan pour répondre à l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique de manière immédiate.
Le Rassemblement national, lui, perd un siège de député, conséquence de l'élection législative partielle dans la première circonscription des Ardennes, remportée par un candidat sans étiquette, un ancien député Renaissance. Il bénéficie d'un barrage républicain. Conclu, pas encore adopté, la Commission européenne a trouvé un accord en vue de mettre en place le libre-échange avec les pays du Mercosur, marché commun sud-américain. Mais il n'y a pas de ratification pour le moment. Ce n'est donc pas la fin de l'histoire, martèle la France par la voix de l'Élysée. Paris s'oppose à ce traité en l'état. Après l'étape de la Commission, c'est un bras de fer au sein de l'Europe qui s'ouvre et ça va peut-être durer des mois, Éric Kioche.
D'ordinaire, pour qu'un tel accord soit ratifié, il doit être adopté à l'unanimité par le Conseil européen. Mais ce serait prendre le risque d'un veto de la France, qui y est farouchement opposée. La Commission envisage donc de scinder le texte en deux, séparant le traité de coopération entre l'UE et le Mercosur de l'accord de libre-échange, une subtilité juridique qui lui permettrait de faire adopter le volet commercial par une simple majorité qualifiée. En revanche, si quatre pays membres le refusent et s'il représente au moins 35% de la population totale européenne, le texte serait abandonné. C'est la fameuse minorité de blocage. Pour le moment, seule la France et la Pologne ont affirmé officiellement leur opposition. L'Autriche, les Pays-Bas et l'Irlande ont déjà exprimé des réserves et pourraient s'opposer également. Mais même en tenant compte de ces refus, le critère population ne serait toutefois pas totalement atteint.
Et voilà pourquoi tous les regards se tournent désormais vers Rome, Eric.
Jeudi, l'Italie a laissé entendre qu'elle pourrait s'opposer au texte. Si cela se confirme avec ses 59 millions d'habitants, la minorité de blocage serait quasi assurée. Mais en réalité, le gouvernement de Giorgia Meloni est divisé. Certains ministres veulent préserver le monde agricole, tandis que d'autres considèrent ce traité comme une aubaine pour l'industrie. Même si une coalition du non semble difficile à trouver, il reste du temps à Paris. Le processus de ratification, par exemple, du CETA, accord de libre-échange avec le Canada, avait duré près d'un an.
Le récit d'Éric Kioche pour Radio Classique. Après la cérémonie de réouverture samedi, les premières messes hier à Notre-Dame, reportage à suivre dans le journal de 8h. 4 départements du Sud-Ouest en vigilance orange, neige, verglas, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège. Jusqu'à 1,50 m de neige attendue selon Météo France.
Merci Pierre, rendez-vous à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre, l'écho du monde, Christian Macarian. Le régime syrien s'est effondré en un week-end après des années de guerre civile. Comment est-ce arrivé? Les explications de Christian.
Avec Optique 2000, découvrez les verres progressifs Varilux.
Pour voir de près.
Comme de loin.
À l'extérieur.
Comme à l'intérieur.
Confortablement sur tous les écrans.
En lisant. Ou en conduisant.
Pour bénéficier d'un conseil personnalisé et découvrir les verres Essilor les mieux adaptés à votre vue, rendez-vous chez votre opticien Optique 2000. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Ces produits sont des dispositifs médicaux.
Cerise de Groupama nous dit où trouver de nouvelles idées pour investir.
Vous avez vendu votre entreprise, Fabien ?
Oui, Cerise. Et maintenant, je cherche les meilleures options d'investissement.
Connaissez-vous Groupama Asset Management, spécialisée en placement financier ? Depuis 5 ans, elle est reconnue meilleure société de gestion d'actifs en Europe par European Funds Trophy.
Merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller en gestion de patrimoine.
Groupama Asset Management, investir pour l'avenir.
Plus d'infos sur groupamaam.com. Groupama AM est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir présente des risques de perte en capital.
Retrouvons François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir le Journal des Finances.
Malgré la crise politique en France et l'absence de budget, le CAC 40 résiste, mais c'est ailleurs qu'il faut aller chercher du potentiel et de la croissance. Investir vous donne ses actions préférées à l'international.
Investir, l'abonnement très rentable depuis 50 ans.
Retrouvons David Barou, rédacteur en chef du journal Les Échos.
Prêt à percer les mystères du héros légendaire 13 ? À l'occasion des 40 ans de la célèbre BD, Les Échos Week-end lui consacre un hors-série collector. Décryptage, croquis, reportage, 100 pages richement illustrées pour vous plonger au cœur de cette saga mythique. Un hors-série exclusif, Les Échos Week-end, en vente dès maintenant chez votre marchand de journaux.
Les ETI sont essentiels dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
Dans un instant, l'écho du monde, Christian Macarian. Pourquoi la Syrie s'est effondrée si vite ? Il nous donne les explications.
Face à la dureté de la vie, il n'y a pas de plus beau cadeau que de vivre la même enfance. Quand les parents ne peuvent plus s'en occuper, SOS Village d'Enfants réunit les frères et sœurs sous un même toit pour qu'ils grandissent ensemble. Accompagnés par un père ou une mère SOS qui veille sur eux, ils retrouvent un cadre familial stable et apprennent à croire en leurs capacités. Pour que frères et sœurs partagent la même enfance, il faut tout un village, des professionnels de l'enfance et vous. Rendez-vous sur notre site sosve.org.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
À 7h40, Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian.
Bonjour David.
En Syrie, l'offensive éclair des djihadistes a abouti à la chute éclair de Bachar al-Assad, qui est en fuite. Comment expliquer que ce régime atrocement répressif se soit effondré avec une telle rapidité ?
Le point de départ de l'offensive contre le régime de Bachar al-Assad se situe au nord-ouest du pays, dans la poche d'Idlib, qui jouxte la frontière turque. Lors de la chute d'Alep, pilonné par l'aviation russe en 2016, les rebelles djihadistes de différentes tendances qui avaient pris racine dans cette ville ont pu négocier en échange de la vie sauve. Ils ont dû accepter de se concentrer dans la poche d'Idlib. Dans ce réduit de 3000 km² qui échappait au contrôle des hommes d'Assad, se sont ainsi retrouvés des groupes djihadistes, mais aussi des résistants non islamistes opposés à Bachar al-Assad, tels que les hommes de l'armée nationale syrienne. Très vite, ce foyer s'est vu dominé par un groupe, le groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, l'Organisation de Libération du Levant.
Alors, quelle est la nature réelle de cette organisation ? Il y a beaucoup de questions sur leurs intentions.
Exact. Il s'agit d'un groupe islamiste qui a rompu avec le rameau fondateur, à savoir la branche d'Al-Qaïda en Syrie, appelée, il y a quelques années, Front al-Nosra. Le chef, Ahmed al-Sharaa, dont le nom de guerre est Abu Mohammed al-Joulani, semble avoir renoncé au djihad global après avoir pris le pouvoir sur le territoire d'Idlib. Si l'on en croit ce al-Joulani, le HTS a concentré tous ses efforts sur le djihad local, c'est-à-dire contre Assad. Al-Joulani a mis en place une administration civile et il a montré des gestes de tolérance très très limités. Mais dans ses efforts pour passer pour présentable, il est incontestablement aidé, soutenu, conseillé, financé par les militaires turcs. Le HTS, Hayat Tahrir al-Sham, a tout de même été accusé par ses habitants et par les défenseurs des droits humains, d'exactions qui s'apparentent, selon l'ONU, à des véritables crimes de guerre. Ajoutons que ce HTS est classé mouvement terroriste par les États-Unis et par l'Union européenne, et que l'on compte, évidemment, pour compliquer la situation, environ 170 djihadistes de nationalité française dans les rangs de HTS.
Alors comment al-Joulani a-t-il pu forcer Assad à détaler aussi vite ?
Quatre facteurs ont été décisifs. Premièrement, l'armée syrienne d'Assad n'était plus qu'une horde de soudards clochardisés. Les jeunes conscrits, après plusieurs années de service militaire forcé, n'en pouvaient plus. Deuxièmement, Israël a intensivement bombardé les implantations du Hezbollah en Syrie, de même que les missiles israéliens ont massivement frappé les gardes soutien de la révolution iranienne, si bien qu'Assad a vu ses alliés auxquels il devait son maintien se faire décimer sous ses yeux d'ophtalmologue. Troisièmement, la Russie a dû rapatrier son aviation vers le front ukrainien, ce qui l'a privé de son moyen d'action privilégié, le contrôle du ciel, son moyen d'action privilégié sur le territoire syrien. Quatrièmement, et surtout, la Turquie d'Erdogan a scruté la fenêtre d'opportunité pour passer à l'action en poussant les djihadistes au détriment des forces russes et iraniennes. Tout cela préfigure assurément de bouleversements en cascade au Moyen-Orient.
Christian Makarian, vous nous avez expliqué pourquoi le régime s'est effondré, qui l'a fait tomber. Les conséquences géopolitiques seront nombreuses, on en parlera avec l'invité de 8h15, Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. À demain, Christian. À suivre le journal imprévisible consacré à l'exil des dirigeants renversés en exil ou en fuite. Radio Classique, 7h44.
Le grand concert de Noël de Radio Classique vous donne rendez-vous à Paris. Venez fêter Noël avec les plus grands compositeurs et écoutez en famille les plus beaux chants de Noël. Une soirée merveilleuse avec le clarinettiste Pierre Génisson, l'orchestre Consuelo dirigé par Victor-Julien Laferrière et le chœur de l'Université PSL. Le grand concert de Noël de Radio Classique, présenté par David Abiker, les 14 et 15 décembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservation au 01 49 52 50 50 ou sur theatrechampselysees.fr.
Le concert de Noël, en partenariat avec le Conservateur, 180 ans d'expertise personnalisée au service de votre patrimoine. Nous donnons de la valeur au temps.
Et voilà, depuis qu'il a été chez Atoll, papa il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre.
Pour une vision nette de près comme de loin, découvrez les dernières technologies des verres Varilux Essilor chez votre opticien Atoll. Élu meilleure chaîne de magasins 2025, catégorie optique pour la 7e fois consécutive. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voir sur atoll.fr.
Peugeot. Vous êtes sur la route et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si maintenant je vous dis que vous pourriez repartir au volant de cette 208, en version électrique, hybride ou thermique, et en plus, disponible immédiatement à partir de 130 euros par mois seulement, ça aussi c'est pas mal, non ?
LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 3400 euros pour une 208 style essence 9 en stock sous conditions de reprise. Réservé aux particuliers jusqu'au 15 décembre si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Investir dans la forêt. France Valais, expert européen d'investissement en actifs naturels, propose des solutions d'investissement responsables. France Valais, ce sont 45 000 hectares de forêt gérés durablement en Europe pour 20 000 investisseurs. Renseignez-vous auprès de votre conseiller financier habituel et sur france-valais.com. Ces investissements comportent un risque de perte en capital et de liquidité.
Radio Classique, le journal imprévisible.
On retrouve Marc Bourreau à 7h46. Bonjour Marc.
Bonjour David, bonjour à tous.
Moscou pour dernier refuge. L'ex-dictateur syrien Bachar al-Assad a été finalement accueilli par la Russie hier après la chute de son régime. Les spéculations allaient bon train sur son départ ou non de la Syrie. Al-Assad, c'est un dictateur en fuite parmi tant d'autres dans l'histoire.
Et oui, une capitale, Damas, qui tombe, la statue d'Al-Assad père réduite en miettes, des images, David, qui nous ramènent 21 ans en arrière.
C'était le plus grand, le plus haut, le plus lourd symbole du pouvoir. Le visage de Saddam Hussein, celui que tout Irakien devait aduler en public, n'est plus qu'un trophée qui ne fait plus peur à personne.
Souvenez-vous, le 9 avril 2003, les troupes américaines entrent à Bagdad en Irak. Image symbolique, les Irakiens spontanément font tomber le monument à la gloire du dictateur irakien, introuvable après 24 ans de règne sanguinaire.
Ladies and gentlemen, we got him.
Un régime de terreur et une cavale rocambolesque qui s'achève 8 mois plus tard, près d'une ferme à Tikrit. Et Saddam Hussein, tout puissant, est retrouvé dans un trou à rats avec un pistolet, deux kalachnikovs et 750 000 dollars dans une valise.
Un GI est attiré par un bruit et remarque un dôme de terre recouvert de gravats, l'entrée d'une cache souterraine. Un abri rudimentaire creusé à 3 mètres sous terre.
Lorsqu'il est sorti, il a dit « Je suis Saddam Hussein, le président de la République irakienne, et je suis prêt à négocier. » Les soldats américains ont répondu « Le président Bush vous envoie ses salutations. »
Allô ? Allô ?
Les dictateurs qui fuient sans quitter leur pays, faute de point de chute, David. C'est aussi Kadhafi, lynché par la foule en 2011 en Libye. Même sort pour Nicolae Ceaușescu, après 15 ans de règne d'une main de fer en Roumanie, et une fuite digne d'un roman d'espionnage.
C'est grâce à un souterrain reliant le palais présidentiel au siège du comité central que le couple Ceaușescu a pu prendre la fuite. Un formidable réseau souterrain dans Bucarest, allant jusqu'à l'aéroport. Un réseau de plus de 50 km de long.
50 km sous terre pour s'enfuir. Vous entendez là la bande originale du film Le Dernier Roi d'Écosse, film consacré au dictateur sanguinaire Idi Amin Dada, le boucher de l'Afrique. 8 ans de règne brutal, il finit par être chassé du pouvoir en 79 et termine ses jours dans le luxe en Arabie Saoudite.
Excellent Forest Whitaker dans Le Dernier Roi d'Écosse.
Exactement. Une suite beaucoup plus mouvementée en revanche pour la dynastie Duvalier, dont vous entendez une chanson à la gloire. Duvalier, du moins Jean-Claude Duvalier, le fils en Haïti. Baby Doc, 30 ans de présidence, 30 000 morts, 300 millions de dollars siphonnés dans les comptes du pays et une certaine conception du pouvoir.
Est-ce que vous allez conserver l'idée de faire des élections l'an prochain ?
Il n'y a jamais été question d'organiser d'élections.
Pas d'élections. Et vous êtes président à vie ?
C'est ça. Un président à vie qui, dans sa voiture, essayait de donner le change. Seulement, il avait déjà bouclé ses valises et demandé sans succès à plusieurs pays le droit d'asile.
Oui, c'est l'exil en 86 pour Duvalier. Un exil qui le mène en France, dans la commune de Talloire, en Haute-Savoie. Talloire, destination nécessaire pour Haïti, estimait alors le premier secrétaire du PS, Lionel Jospin.
Pour les Haïtiens, il était mieux que Baby Doc soit à Talloire qu'à Port-au-Prince. C'est-à-dire que nous avons facilité une transition pacifique en le faisant partir plus vite.
La Haute-Savoie, puis Grasse, puis Cannes, Baby Doc passe de villa en villa prêtée par des chefs d'État de monarchie pétrolière jusqu'à son retour en Haïti en 2011. Une virée donc sur la Côte d'Azur, presque sans faire de vagues.
Le tribunal l'a récemment condamné à débourser 500 000 francs pour loyers impayés. Plusieurs commerçants cannois ont aussi des comptes à se faire régler.
Monsieur Duvalier nous doit 4 500 francs depuis le mois de mai l'année dernière.
Il nous doit dans les 45 000 francs. Et en plus, si c'est de l'argent qu'on lui a une partie qu'on lui a prêtée parce qu'ils n'avaient pas de quoi boucler.
Il a vendu la voiture, il a vendu ci, il a vendu là, mais on n'a pas vu la couleur. Hein.
Surtout ne te retourne pas.
Dictateur en exil, c'est des frères.
Ben finalement, hein, c'est pas une vie quand même. Hein. La France, destination choisie aussi, David, par un autre dictateur en janvier 2011.
À bord de cet avion, le président Ben Ali et ses proches. Après 23 ans de pouvoir sans partage, le président prend la fuite.
En plein printemps arabe, Ben Ali, une tonne et demie d'or en soute, doit pourtant rebrousser chemin. Il n'ira pas en France, ce sera finalement Jeddah, l'Arabie Saoudite, où le dictateur tunisien finira ses jours en 2019.
Ces images ont été diffusées hier soir par la télévision nationale tunisienne. Ce palais présidentiel, situé à Sidi Bou Saïd, servait à cacher, je cite, ce que le président et sa famille ont volé au peuple tunisien.
Un autocrate en fuite et des Tunisiens sidérés lorsqu'ils découvrent le palais présidentiel déserté, 11 000 mètres carrés, 332 pièces, des lasses de billets, de bijoux, des grosses cylindrées. 2011-2024, même image, même sidération en Syrie au palais de Bachar al-Assad. Et une même question, le dictateur une fois parti, quel avenir attend désormais le pays ?
Si les révolutions étaient aussi sympas qu'un concert de Paul McCartney, ça se saurait. Marc Bourreau, on vous retrouve demain pour le journal imprévisible. À suivre le décryptage de David Barou. Les industriels européens misent sur les États-Unis. Radio Classique, 7h52.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé,
j'agis.
Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. Et avec AJP, retrouvez le décryptage du lundi au vendredi à 7h54 sur Radio Classique.
Dis donc, tout le monde parle de Bitcoin, de crypto, moi j'y comprends rien.
Fais comme moi, passe par CoinHouse. C'est sérieux, des experts t'accompagnent et en plus c'est français.
Ah, c'est rassurant ça.
Bien sûr, avec CoinHouse, tout est clair, accessible. C'est l'idéal pour acheter des cryptos.
Redis-moi comment ça s'appelle ?
CoinHouse, comme dans Bitcoin.
CoinHouse SAS, 14 avenue de l'Opéra, Paris 1er. La crypto-monnaie présente un risque de perte en capital lié à la volatilité des cours et à la cybersécurité. Plus d'infos sur coinhouse.com.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassé. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas! Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e. Métro Notre-Dame-des-Champs.
Vendre cet immeuble haussmannien pour payer les droits de succession, voilà ce que redoutaient Virginie et Sophie quand elles ont hérité de leur père. Heureusement, grâce au cabinet Bougardier, elles ont souscrit un prêt hypothécaire à long terme. Dans 15 ans, au moment de leur retraite, le prêt sera remboursé et elles percevront la totalité des loyers de l'immeuble. Comme pour Virginie et Sophie au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AGP, vous êtes assuré et associé.
7h54, voici David Barrou pour le décryptage de l'économie. Bonjour David.
Bonjour David.
Les industriels européens ont la tentation des États-Unis.
Ouais, hein, sur les 10 premiers mois de 2024, les industriels européens ont dirigé 37% de leurs investissements vers le continent américain contre seulement 33% vers l'Europe. Alors 37 contre 33, ça peut sembler assez proche, mais ça veut quand même dire que pour la première fois, les Européens misent plus sur le potentiel de croissance aux États-Unis en particulier que sur leur marché domestique. Le deuxième indicateur qui doit retenir notre attention dans le baromètre mondial des investissements industriels qui est réalisé par Trendeo, McKinsey et l'Institut de la réindustrialisation, c'est un autre chiffre qui montre que non seulement nos industriels ne croient plus trop en l'Europe, mais en plus, ce sont aussi ceux qui croient le moins en leur propre marché, hein, puisque 44% des investissements européens se font hors de leur marché domestique, contre 24% seulement pour les Américains et un tout petit 15% pour les Chinois.
Comment vous expliquez cette tendance qui inquiète quand même?
Ben, c'est un mélange de facteurs historiques et de facteurs nouveaux. L'historique, c'est que cela fait des années que l'on sait qu'il y a plus de potentiel de croissance sur un marché américain qui est unifié, avec moins de taxes et de règles, et une énergie bien meilleur marché qu'en Europe. Pareil un peu en Chine, avec en plus là-bas, il faut l'avouer, un avantage en termes de coût du travail. Mais en plus, depuis quelques années, on a eu l'IRA aux États-Unis, le plan écologique et industriel post-Covid, qui aide les entreprises à investir. Et maintenant, bah, on a l'arrivée de Trump qui veut d'un côté relancer l'économie et de l'autre être plus protectionniste, ce qui va contribuer à attirer des usines sur son territoire. On a une tendance de fond et des éléments d'accélération.
Et donc, on a des raisons de s'inquiéter.
Bah oui, c'est très inquiétant, hein, parce que les investissements industriels qu'on ne fait pas aujourd'hui, ce sont les usines, les emplois, les exportations et la création de richesses qui risquent de nous manquer demain. Hein. L'Europe, c'est la première zone économique de la planète, mais nous sommes aujourd'hui à la fois en crise et sur le déclin. Les autres sont à la fois plus agiles, plus pragmatiques et bénéficient d'une forme de leadership politique, certes souvent critiquable, mais au moins ils se fixent des objectifs et ils se donnent les moyens de les atteindre. Ce n'est pas le cas chez nous, et nos industriels, qui sont pragmatiques, en tirent les conséquences. Les industriels peuvent profiter de la mondialisation, mais nous pourrions en être les victimes si on ne se ressaisit pas très rapidement.
Il faut inverser la tendance, on avait cru le faire, hein, du temps ouais. Où on disait que la France était une terre attractive pour les investissements étrangers. Il faut y revenir. Industrie, la ruée vers l'Ouest, c'est aussi la une des Échos ce matin, mon cher David. Je vous dis à demain sur Radio Classique, 7h56, c'est l'heure du point du jour. Bonjour Franck.
Bonjour David, bonjour à tous.
Nous sommes le lundi 9 décembre. Quel événement historique ravivez-vous dans les mémoires de nos auditeurs?
Celui du 9 décembre 1893. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Mmh. L'anarchiste Auguste Vaillant, qui est dans l'hémicycle de la Chambre des députés, comme on disait à l'époque, et qui va lancer une bombe, figurez-vous. Paris, à l'époque, est un foyer de contestation sociale et anarchiste. Ces idées qui sont plus ou moins et indirectement héritières des travaux de Pierre-Joseph Proudhon, vous savez, vont trouver un écho parmi les artistes de la capitale. Et devant la répression des manifestations anarchistes engagées par les autorités, le mouvement est en train de s'emballer. En 91, la troupe attiré sur la foule à Fourmis, effet Dimorge, j'ai eu l'occasion de raconter ça ici. À Clichy, des anarchistes sont arrêtés, emprisonnés. Leur procès soulève l'opinion, entraîne une série d'attentats et à partir de 1892 et pendant deux ans, la capitale capitale va être secouée par toute une vague d'attentats avec des explosions qui retentissent dans les rues et jusque dans l'hémicycle donc.
Alors et c'est là qu'arrive donc Auguste Vaillant avec sa bombe.
Et voilà, il a 33 ans Vaillant. Ce 9 décembre 1893, il lance sa bombe dans l'hémicycle. 50 députés vont être blessés. Il n'y a pas eu de mort. De la tribune du Palais Bourbon, le président, qui était Charles Dupuis, lance dans le brouhaha « Messieurs, la séance continue !» Incroyable. Et un instant plus tard, il ajoute avec l'emphase de l'époque « Il est de la dignité de la Chambre et de la République que de pareils attentats, d'où qu'ils viennent et dont d'ailleurs nous ne connaissons pas la cause, ne troublent pas le législateur. »
Mais quel sang-froid !
Auguste Vaillant, lui, va être guillotiné le 5 février 94 pour briser le mouvement anarchiste. Il y aura toutes les lois répressives qu'on appelle les lois scélérates, vous savez, ce qui ne dissuadera pas le jeune Émile Henry de lancer une bombe dans le café Terminus à la gare Saint-Lazare en faisant un mort et une vingtaine de blessés quelques temps plus tard. Et puis bien sûr, vous savez, ensuite, c'est Cazériot qui assassinera à Lyon le président Sadi Carnot. Ça, ce sera le 25 juin 94.
On retrouve Franck Ferrand un peu après 9h pour Franck Ferrand raconte.
Et tout de suite, la météo.
Avec la Banque Transatlantique, donnez de nouveaux horizons à votre patrimoine.
Virginie, que d'eau, que d'eau, que d'eau.
Ah ben les éclaircies se limitent à la Bretagne, un peu, et au bord de la Méditerranée, beaucoup plus. Ailleurs, de la pluie et même de la neige dans les Pyrénées. Il fait froid, on flirte avec les gelées dans le Cantal ce matin. Il fait 2 degrés en Alsace, 4 en Bourgogne et dans le Rhône, 5 à Paris, à Toulouse et à Nantes, 7 à Marseille et jusqu'à 10 degrés à Brest.
Renew. Avec Renew, véhicule d'occasion toute marque des réseaux Renault et Dacia, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Jusqu'au 31 décembre, profitez de la borne de recharge offerte sur toute notre gamme de véhicules d'occasion 100% électriques. Renew, véhicule d'occasion reconditionné et certifié. Borne d'une valeur de 600€ hors taxe pour forfait borne plus installation. Offre à particuliers et professionnels du 1er au 31 décembre, voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez Radio Classique, vous avez bien raison, il est 8h.